France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Depuis hier, il est possible de prendre à Singapour un taxi sans chauffeur. Dans un quartier délimité de la ville, les clients de la start-up Nutonomy peuvent embarquer à bord d'une Renault électrique, une Renault Zoé, pour une course en autonomie dans les jours qui viennent à Pittsburgh aux États-Unis. C'est Uber qui va mettre en place un système, un service à peu près identique. Et partout dans le monde, la concurrence des constructeurs est acharnée dans la perspective de l'avènement qu'on nous annonce plus ou moins proche de la voiture autonome, l'automobile vraiment auto. Alors évidemment, ça change tout, notre rapport à la voiture, à la ville, à la mobilité pourrait bien s'en trouver bouleversé. Dans quelle mesure? On voit ça ce matin avec nos invités. Jean-Pierre Orfeuille, ingénieur des mines, spécialiste des mobilités urbaines, auteur avec Mathieu Flonneau de Vive la route, vive la République aux éditions de l'Aube. Et puis Hervé Marchal, sociologue de l'urbanité, est également avec nous, maître de conférences à l'Université de Lorraine, auteur en 2014 de Un sociologue au volant aux éditions Tétraèdre. Alors, on parle pour l'instant de test, on est bien d'accord, on l'a dit tout à l'heure, il est possible que la voiture autonome n'arrive pas si vite que ça, mais quand même ça arrive bien plus vite qu'on l'avait imaginé, Jean-Pierre Orfeuille. Ça s'accélère, l'histoire s'accélère.
Personne ne veut être le dernier. Personne ne veut être le dernier. Donc, à partir du moment où les GAFA sont lancés dans l'affaire...
Les GAFA, ce sont les géants de l'Internet.
Géants de l'Internet. Les constructeurs ont éprouvé le besoin de réagir et d'aller vite eux-mêmes. Mais par ailleurs, de toute façon, j'irais même si la voiture autonome n'apparaît réellement que dans assez longtemps, il y a un certain nombre d'applications qui vont pouvoir se développer,
qui sont déjà là,
et être mises à la disposition du public sans que cette voiture soit totalement autonome. Il faut quand même rappeler que les automobiles, elles sont en progrès constant. Bon, il y a des boîtes automatiques, il y a des des ABS, des choses comme ça, qui font que l'automobile, c'est un produit qui est en constante évolution.
Il y avait la direction assistée déjà, ça a été une première évolution un peu importante dans les 15 ou 20 dernières années. Les géants de l'Internet, si on vous entend bien, Jean-Pierre Orfeuille, sont les constructeurs de demain?
Ça, c'est une question ouverte. Je crois que personne n'a vraiment la réponse. Les gens de l'Internet savent faire des choses mieux que d'autres dans certains domaines, mais une voiture, c'est pas tout à fait simplement une ligne de code. Il y a de la mécanique, il y a des choses comme ça. Et de toute façon, les gens de l'Internet sous-traitent très très largement.
Ouais, on peut imprimer des voitures aussi. Hein, il faut quand même aussi le rappeler, Jean-Pierre Orfeuille. La mécanique va être aussi un peu de plus en plus simple. Est-ce que c'est une nouvelle utopie? On n'aura pas eu la voiture qui vole de l'an 2000, là, dont on parlait, je sais pas, dans les années 60. On aura celle qui roule toute seule. Est-ce que c'est pas non plus peut-être la création d'un nouveau besoin? Quelque chose qui est comme ça, qui arrive sans qu'on l'ait vraiment voulu, sans qu'on en ait vraiment besoin?
C'est certain. Je crois que si vous interviewez beaucoup de conducteurs aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui ont un certain plaisir à conduire. Je crois que la voiture autonome n'est pas spontanément demandée par nos 35 ou 40 millions d'automobilistes. Et d'ailleurs, vous noterez que, en général, les applications de la voiture autonome sont plutôt des applications de type taxi ou autre. C'est pas la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Je crois qu'il faut bien pointer ça. Et avant que ce soit la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, si toutefois ça le devient un jour, il coulera de l'eau sous les ponts.
Ouais. Hervé Marchal, vous êtes d'accord avec ça? La voiture autonome, ou en tout cas l'autonomie dans les transports, viendra par les transports publics, comme nous le dit Jean-Pierre Orfeuille?
Oui, dans une très large mesure. Et cette voiture autonome, je crois qu'il faut bien noter que ce sera un objet très paradoxal, parce qu'elle va devenir très étrange, c'est-à-dire qu'on n'aura aucune prise quand elle tombera en panne. C'est une voiture...
C'est le cas déjà.
Et oui, c'est ça. C'est-à-dire, on ne va pas comprendre son fonctionnement. Et en même temps, et c'est là le paradoxe, cette voiture va devenir extrêmement familière. C'est-à-dire que tout sera pensé pour qu'on s'y sente extrêmement bien, mais avec un objet technologique qui nous échappera complètement dans sa spécificité. Alors, c'est déjà le cas, mais ce sera encore de plus en plus vrai. C'est ça que va découvrir l'usager. Et ça, ce sera ça va s'accélérer davantage.
Elle sera à la fois plus étrange et plus facile quand même. On aura un rapport avec elle encore un peu plus fusionnel, c'est ça ?
Oui, plus fusionnel, c'est-à-dire que la voiture autonome va augmenter durant les transports quotidiens des temps divers. Ce sera un espace de travail connecté, un espace familial, un espace d'intimité aussi. On s'en retrouve seul. La voiture, elle est... Et c'est partie de notre habitat, et c'est dans cet habitat, on choisit avec qui on veut être, ce qu'on veut être. On ne fait pas que conduire dans une voiture. Déjà aujourd'hui, on fait plein de choses. Et c'est là que cette voiture autonome va augmenter cette qualité existentielle durant la mobilité quotidienne.
C'est-à-dire qu'on ne va plus faire uniquement que de se déplacer en voiture, même quand on sera seul, on sera dans une mobilité avec la possibilité de faire autre chose bien plus qu'aujourd'hui.
Oui, et à ce titre, on peut distinguer les déplacements de la mobilité, parce qu'on peut se déplacer sans être mobile, si l'on entend par mobilité une mobilité identitaire, dire quelque chose qui nourrit l'individu. Dire le déplacement devient une mobilité sociale, identitaire, existentielle, parce qu'il se passe quelque chose pour l'individu, parce qu'il écoute France Culture, parce qu'il écoute sa chanson préférée, parce qu'il écoute des amis, parce qu'il pense à lui-même. Et c'est ça que les usagers demandent. C'est pas tant la voiture autonome, c'est ce qu'on peut y vivre, et c'est l'aide qu'elle va apporter pour organiser son propre quotidien, organiser autant son temps d'accélération pour être dans le mouvement du monde, qu'un temps à soi, qu'un temps où on veut être disponible, où on veut penser à plutôt dialoguer avec soi.
Ça va tout changer, ça, dans le rapport à la voiture, parce qu'on avait tendance à plus trop l'aimer depuis 30 ans, depuis que les centres-villes sont engorgés, depuis que les périphéries sont constamment saturées par les retours, les départs en vacances. On va se réconcilier avec la voiture, Hervé Marchal ?
Alors, on n'est pas complètement en conflit avec la voiture. Il y a des césures sociales assez fortes. Moi, j'ai remarqué ça dans mes recherches. C'est qu'il y a des gens qui sont très attachés à leur voiture et d'autres, effectivement, qui la détestent. Alors, cette voiture, donc on voit qu'elle est l'objet de multiples représentations. Mais en tout cas, oui, la voiture est déjà en disgrâce dans les grands centres urbains. Mais il faut bien comprendre que la voiture reste le moyen de transport le plus adapté dès lors que l'on sort des grands centres urbains. Et cette voiture, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on en a véritablement besoin.
Ouais, Jean-Pierre Orfeuille, on avait apprivoisé la voiture, c'est ce que disait Barthes. Elle est en train de reprendre le dessus, là, avec ces nouvelles technologies.
Bon, je crois qu'on est en train d'observer, comme le dit mon collègue, que en dehors des centres urbains, elle est absolument indispensable. Et donc là-dessus, il y a quand même un aggiornamento à conduire. Bon, ensuite sur ce qui vraiment les questions d'automatisme et autres, je crois qu'il y a quand même deux points qu'on laisse beaucoup trop de côté pour le moment. Si on s'imagine que la voiture autonome peut devenir la voiture de Monsieur Tout le Monde, il faut quand même se poser accessoirement un petit problème de coût. Et pour l'instant, vous n'aurez pas manqué de remarquer que la communication d'Uber et des autres là-dessus est quand même extrêmement limitée. Bon, c'est absolument évident que c'est au moins 2-3 fois le prix d'une voiture actuelle. Bon, ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que tant qu'on n'est pas sur un automatisme absolu, vous avez la contrainte de pouvoir d'être en capacité de reprendre le contrôle du véhicule à chaque fois. C'est-à-dire, l'idée que vous pouvez dormir au volant, il faut oublier.
Oui, parce qu'on voit bien que c'est pas non plus entièrement fiable. Il y a eu un mort, un accident mortel, le premier, alors, là, aux États-Unis récemment.
C'est à la fois pas entièrement fiable. Bon, ça, c'est peut-être plus fiable que la voiture actuelle, mais c'est pas entièrement fiable. Mais l'autre point qui est un petit peu paradoxal, c'est que pour être très fiable, c'est un véhicule qui va peut-être être plus lent que le véhicule actuel. Imaginez, simplement, vous êtes conducteur et vous arrivez à la hauteur d'un passage protégé. Il y a quelqu'un qui est là. Bon, vous avez l'intelligence de comprendre s'il a envie de s'engager, vous avez une espèce de négociation mentale avec cette personne. Et bon, l'intelligence là, Et si elle veut être très sécurisée, elle va dire, bah, s'il y a un piéton qui est juste devant le passage protégé, je m'arrête.
On s'arrête, voilà.
On s'arrête. Ouais. Ça sera la d'une certaine façon la bonne décision en termes de sécurité, mais ça risque de quand même de rallonger votre temps de parcours.
Oui, mais ça sera, comme vous le disiez, plus de sécurité du coup. Est-ce que au niveau des embouteillages, par exemple, dont on parlait tout à l'heure et qui sont un des gros problèmes liés à l'automobile depuis très longtemps, est-ce qu'on peut imaginer à terme aussi des algorithmes qui permettraient de réguler les vitesses, alors certes peut-être de rouler moins vite sur certaines portions, mais d'arriver au bon moment pour que tout le monde puisse arriver sans être bloqué,
les embouteillages et à basse vitesse, on peut tout à fait imaginer que la voiture ait une certaine autonomie qui vous dispense d'une charge mentale relativement importante. Cela dit, il faut quand même rappeler, les embouteillages, c'est quelques pourcents des kilomètres automobiles en France. Ça existe, c'est une réalité, on peut aider de ce point de vue-là, mais c'est pas la situation généralisée.
La voiture pollue beaucoup moins qu'il y a 10, 20, 30 ou 40 ans. Est-ce qu'elle polluera encore moins, la voiture autonome, Jean-Pierre Orfeuille?
Oui, elle pourra polluer éventuellement un petit peu moins parce que, elle conduit en gros mieux que vous. Elle saura adapter sa vitesse et l'optimiser. Et donc, de ce point de vue-là, oui, on peut penser. Ça risque d'être marginal par rapport aux technologies de dépollution qui ont été mises en œuvre depuis très longtemps et qui ont produit des résultats assez spectaculaires. Je dis ça en ayant conscience du scandale Volkswagen, ça ne remet pas les fondamentaux en cause.
Hervé Marchal, tout ça change évidemment complètement notre rapport aussi à la ville. Question qui vous intéresse dans vos travaux.
Oui, rapport à la ville, effectivement. Je crois qu'il y a la question du coût, comme le dit très bien mon collègue, mais aussi la question des compétences. Ça veut dire que la voiture autonome ne sera pas si simple que ça, à certains égards. On n'est pas tous égaux, déjà, face à nos automobiles. C'est extrêmement important à penser, les usages. Et puis aussi la question de la liberté. C'est là qu'on touche la question du rapport à la ville. Parce que conduire, c'est encore se sentir libre. Moi, les personnes que j'ai rencontrées durant ma recherche me l'ont très bien dit. Et si tout est régi technologiquement, où est la question de la liberté? Même d'un certain désir de conduire sa vie dans tous les sens du terme. Et je crois que la voiture autonome va poser une question extrêmement importante. Est-ce que finalement je peux décider de ce qu'est la voiture pour moi? Est-ce que j'ai encore une possibilité de choisir comment cette voiture elle va être dirigée? Et ça, si effectivement ce sont des algorithmes, et c'est très bien à certains égards pour la régulation de la circulation automobile. Mais si ce sont des algorithmes qui décident de tout, cette question de la liberté se posera inévitablement. Et effectivement, dans notre rapport à la ville, cette voiture autonome est extrêmement pratique. Si elle permet une meilleure régulation des mobilités, plus d'intermodalité dans les transports, c'est-à-dire qu'il y a la voiture, le vélo, tout ce qui est circulation piétonne, les bus bien évidemment, le tramway, etc., c'est très bien. Mais il y a aussi l'individu contemporain est un individu qui veut aussi décider. Qui veut choisir. Et ça, c'est extrêmement important dans notre rapport à la ville et donc à la voiture autonome.
Jean-Pierre Orfeuille.
Oui, je crois que les fonctions d'autonomie, ou en tout cas les fonctions d'assistance, vont se développer, elles seront utiles, elles rendront l'exercice de la conduite un petit peu plus facile. Et bon, chaque fois qu'on fait ça, il faut pas oublier que, on va être incité à se déplacer un peu plus. Plus c'est facile, plus on l'utilise. Et bon, pour prendre un seul exemple, on peut imaginer effectivement que la fonction d'aide au stationnement, qui existe sur des véhicules de très haute gamme.
C'est-à-dire que les voitures, effectivement, aujourd'hui déjà, se garent toutes seules, effectuent déjà tout un tas de manœuvres.
Des voitures se garent toutes seules.
Certaines, bien sûr.
Certaines voitures
qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, très chères.
Et donc, on peut imaginer que ça se développe et que ça aide des gens. Ça rejoint la thématique des compétences. Oui, on aidera beaucoup. c'est un chemin. Hein. Je crois que le véhicule autonome, il faut pas le voir comme un aboutissement, mais plutôt comme un chemin. Et sur ce chemin, il y aura de l'assistance qui va se développer et qui permettra à des gens soit de se déplacer plus, soit de se déplacer plus facilement.
À quel moment de l'histoire de la voiture, ces phénomènes-là arrivent? Est-ce qu'on est à une rupture? Est-ce que vous voyez arriver, Jean-Pierre Orfeuille, une rupture avec cette voiture autonome? Et alors quoi, la voiture a 100, 120 ans, c'est ça, dans son utilisation à peu près quotidienne, même si au début, évidemment, et encore aujourd'hui, dans pas mal de partie du monde, ça concerne évidemment pas tout le monde. On voit bien aujourd'hui que cette voiture, on n'a pas le même rapport qu'il y a 10 ou 20 ans.
Elle est un peu désacralisée aussi. Elle a été désacralisée, elle n'est plus nécessairement emblématique de notre condition sociale.
Alors on peut covoiturer maintenant.
Il y a des gens qui covoiturent, il y en a d'autres qui louent leur voiture entre particuliers, qui se la prête moyennant quelques finances. Oui, indiscutablement, on a une conception de plus ouverte, hein, de notre rapport à l'automobile. Il est probable que ces fonctions d'autonomie vont être mises au service de flottes de véhicules circulant dans les grandes villes qui permettront, mais là on est plutôt en dialogue avec les transports en commun que avec l'automobile personnel, hein, et donc permettront d'avoir en quelque sorte un service de transport collectif individuel relativement efficace, mais pour l'instant on ne l'imagine que dans des grandes villes et dans des cœurs de ville.
Hervé Marchal, la voiture est aujourd'hui moins investie symboliquement, affectivement aussi?
C'est une question compliquée. Il n'y a pas un rapport à la voiture, il y a des rapports à la voiture avec des différences sociales, générationnelles, importantes. Qui eût cru que Dacia allait marcher à ce point? Les pique-niques Dacia font florès, connaissent un grand succès. Et tout ça, c'est assez étonnant. Donc l'histoire n'est pas linéaire et on voit que c'est compliqué. Et parmi les 18-25 ans, moi j'ai rencontré effectivement de jeunes personnes qui haïssent la voiture, qui n'entendent jamais passer le permis de conduire, qui vivront dans des grands centres urbains, et d'autres qui effectivement aiment conduire, ont un rapport très singulier à la voiture. Là, il y a des césures, hein, entre urbains, semi-urbains, ruraux, des césures sociales aussi, selon les catégories sociales. Et puis, quand on regarde aussi les choses de près, effectivement, la voiture a été désacralisée, mais on a encore un rapport fétichiste qui ne se dit pas à la voiture. C'est très étonnant, c'est-à-dire qu'on lui parle à la voiture. Cette voiture, on s'y attache. C'est une voiture où on y dépose une partie de soi, des odeurs, des sons familiers, par exemple. Et donc, la voiture n'est pas vraiment un objet comme les autres. Et c'est un fétiche, la voiture. Moi, j'étais très surpris, hein, durant mes recherches, en observant ce qui se passe à l'intérieur de la voiture, de l'habitacle, finalement, à quel point la voiture est une sorte d'entité qui compte.
Et notamment parce qu'on peut y écouter France Culture, comme vous le disiez tout à l'heure. Merci, Hervé Marchal, sociologue de l'urbanité, maître de conférence à l'Université de Lorraine, auteur en 2014 de Un sociologue au volant aux éditions Tétraèdre. Merci également à Jean-Pierre Orfeuille, ingénieur des mines, auteur avec Mathieu Flonneau aux éditions de l'Aube de Vive la route, vive la République.